Bonjour. Pour juste une information pour les enfants de 0 à 4 ans, il y a maintenant en bas à la garderie un moment exprès pour eux. Donc s'il y a encore des enfants de 0 à 4 ans, vous pouvez descendre. Voilà, bonjour et bienvenue. Bienvenue à chacun d'entre vous, si vous êtes là pour la première fois ou si vous êtes régulier. Sentez-vous tous les bienvenus. Donc je vais prier pour commencer ce culte. Seigneur Jésus, nous t'accueillons dans ce lieu. Viens t'installer au milieu de nous. Fais-nous ressentir ta présence, ta compassion. Revêt-nous de ta consolation comme d'un manteau d'amour. Sois particulièrement auprès de ceux qui souffrent. Réponds aux personnes qui sont venues avec des questionnements. Laisse-toi trouver par ceux qui te cherchent. Sois auprès de ceux qui n'ont pas pu venir ce matin pour diverses raisons. Rejoins-les là où elles se trouvent. Seigneur, nous sommes honorés que tu t'intéresses à chacun d'entre nous. Et nous sommes émerveillés de savoir que tu nous as choisis, comme tu l'as dit dans ta parole. Alors Seigneur Jésus, aide-nous à être reconnaissants pour toutes nos situations, sachant que tu as tout sous contrôle, que tu ne fais aucune faute, mais que tu fais tout dans un but. Sois glorifié, élevé et adoré. Amen. Alors, je vais aller en fond. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Est-ce qu'il y a des enfants qui veulent venir devant? On va juste parler un peu aux enfants. Les enfants, vous êtes allés la semaine passée faire une sortie avec les potes du dimanche, c'est juste? Vous êtes allés où? Vous vous rappelez?
Chez Cretigny.
Voilà, chez les Cretigny. Et qu'est-ce qu'il y a chez les Cretigny de spécial?
Des moutons.
Des moutons, c'est juste. Et puis, est-ce qu'il y avait un berger?
Oui.
Comment il s'appelle le berger? Tu sais son nom?
Non.
Il s'appelle Michel. Et puis Michel, c'est un berger. Donc vous avez vu des moutons. Je crois que vous avez fait pas mal de choses avec ces moutons. Vous avez vu la tonte, c'est juste? Ils ont tondu, oui?
Oui.
Et puis qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a montré quelque chose avec un chien?
Oui.
Ouais. Comment le chien, il rassemble les moutons. Ouais. Et puis, Michel Cretigny, il est berger, et il a beaucoup de moutons, et puis il est aussi un grand-papa. Il a des petits-enfants. Et puis, est-ce que vous avez aussi un grand-papa chez vous? T'as un grand-papa aussi?
Oui.
Il est là? Il est là. Alors moi, quand j'étais petite, j'avais aussi un grand-papa. Et puis mon grand-papa, il s'appelait Erino. Et puis je vais vous raconter une petite histoire qui lui est arrivée quand il était petit. Erino, mon grand-père, il était dans une famille pauvre. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Et puis le papa de mon grand-père devait aller travailler au loin parce que il n'y avait pas beaucoup de travail où ils habitaient. Donc il était à l'étranger et puis il devait envoyer les sous qu'il gagnait par la poste. Et puis un jour, les sous ne sont pas arrivés, donc la maman de Erino n'avait plus beaucoup de sous à la maison. Et puis elle a dit à Erino, donc son fils, « Erino, va me chercher du pain à la boulangerie. Mais comme il me manque 20 centimes pour acheter un kilo de pain, eh ben, tu achèteras que 500 grammes de pain parce qu'on n'a pas assez de sous. » Alors Erino, il est parti à la boulangerie. Et puis en chemin, il s'est arrêté. Et pourquoi il s'est arrêté? Parce qu'il avait vu faire sa maman souvent, il avait vu prier. Alors il s'est arrêté en chemin, il s'est mis à genoux, et puis il a prié à peu près comme ça. Il a dit, Seigneur Jésus, tu vois, moi je ne te connais pas bien, mais ma maman, elle, c'est ton enfant parce qu'elle t'a donné sa vie. Et puis elle te prie, et puis tu vois qu'il lui manque 20 centimes pour acheter un kilo de pain. Et moi je sais que tu es tout puissant, que tu es riche parce que tout t'appartient, et tu ne pourrais pas me faire trouver 20 centimes, s'il te plaît. Là-bas, par exemple, il y a une grosse pierre. Je pourrais peut-être aller voir sur la grosse pierre. Amen. Alors, il se relève, il part, il va sous la grosse pierre. Qu'est-ce qu'il trouve sous la grosse pierre? 20 centimes. Alors, je vous laisse imaginer le reste de l'histoire. On va raccourcir un peu, parce qu'il y a eu la joie. Et puis après, il est revenu à la maison avec un kilo de pain. Sa maman était contente. Il a remercié Dieu aussi. Tout ça, c'était pour vous dire que même quand vous êtes tout petit, quand vous êtes des enfants et quand on est aussi grand, quand on est grands-parents, eh ben, chaque prière, Dieu l'entend. Et même si on ne sait pas bien parler, si on n'a pas les mots pour le dire, ou quand il nous manque des mots, ou quand on ne sait pas bien parler français, ou quand on n'a jamais prié, Dieu, il entend et il comprend. Il comprend chacune de nos paroles, il comprend même les soupirs, il comprend même nos pleurs, nos larmes, et il les entend et il y répond. Donc voilà, et tout ça pour, dire qu'on peut le louer et on va le louer en chantant.
Oui, qu'on puisse le louer en chantant. Moi, je vous invite à vous lever, qu'on puisse glorifier notre Dieu, d'être dans la reconnaissance, dans la joie ce matin. Et je vous invite à lui souhaiter la bienvenue à notre papa. Il est déjà présent, il était déjà là dans ces lieux avant nous, mais qu'on puisse encore lui dire, sois le bienvenu ici dans ces lieux, mais sois le bienvenu dans notre cœur ce matin pour qu'on puisse l'écouter. Et les enfants, on va faire deux chants avec vous, et après, avec un chant où on aura des gestes, et après, je vous inviterai à aller dans votre groupe. Alors, chantons Hosanna. Glorifions.
Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi, oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. T'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus.
Oui, papa, sois le bienvenu ce matin. Sois le bienvenu. Je t'invite dans mon cœur ce matin aussi, à ton écoute. Et sois honoré ce matin. Et j'ai envie de te louer ce matin. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Alors, je vous invite, les enfants, à vous lever. Levez-vous, les enfants. Il y aura des gestes. C'est vrai qu'on a l'habitude de se lever quand on est devant notre papa. C'est aussi une marque où on se dit « Waouh, j'ai envie de te rencontrer ». Alors, il y aura Sylvie qui va, je te mets un peu la pression, qui va faire les gestes. Je vous invite pas que les petits, mais les grands aussi à faire ces gestes de genoux tournants.
Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver.
Tu viens du ciel,
tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie, de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel.
Je vais juste prier pour vous, les enfants, avant de partir. Seigneur, je te remercie pour ces enfants. Merci parce que sont parmi nous ce matin. Merci de les rejoindre aussi dans leur groupe. Tu puisses leur parler, qu'ils puissent comprendre qui tu es encore plus. Je te remets aussi les moniteurs qui m'ont aussi apporté quelque chose ce matin, que tu puisses les bénir abondamment dans ce cheminement aussi qu'ils font pour nos enfants. Je vous invite à rejoindre votre groupe. Et que nous aussi, adultes, maintenant, puissions aussi continuer dans ce temps de louange, d'adoration. À tout à l'heure.
L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans la présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia.
L'agneau venu des cieux.
Merci.
Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Rédempteur du monde, pour nous tu fus crucifié, ton amour, ta grâce abonde, ô glorieux ressuscité. Merci notre Père d'avoir donné
Aujourd'hui, nous allons prendre le temps de la scène avant le message. Et pour introduire ce temps, j'aimerais lire dans Éphésiens 2, au verset 4 à 10. Éphésiens 2, 4 à 10. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions.
Et pour rendre cela possible, il y a eu la séquence de la croix. Au cours du repas, Jésus prit du pain. Puis, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea en morceaux. Puis il les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe. Et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. Ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. » Nous qui sommes les objets de sa grâce conquérante, nous qui reconnaissons en Jésus notre Sauveur, notre Bienfaiteur, notre Rédempteur, nous pouvons nous approcher avec assurance de cette table que le Seigneur dresse pour nous et nous souvenir de son sacrifice d'amour en notre faveur. Nous pouvons prendre donc le pain, le vin qui sera distribué dans nos rangs tout à l'heure. Pour ceux qui le souhaitent, il y a également une coupe. Merci simplement de vous manifester en levant la main pour que la coupe vous soit apportée. Nous prions. Nous ne voudrions pas, Seigneur, nous habituer à ta grâce. Nous ne voudrions pas, Seigneur, vivre comme si c'était une sorte de parenthèse dans l'histoire, dans notre histoire. On te remercie d'avoir créé ces mémoriaux pour nous. Et on veut prendre avec de la reconnaissance dans le cœur ce pain et ce vin, en souvenir de ta vie livrée pour nous. Quel honneur tu nous fais de participer à ce repas. Et quelle joie nous avons aussi de savoir qu'un jour nous le prendrons non seulement avec toi, mais encore avec les croyants de tous les temps, de tous les âges. Nous nous réjouissons de ce jour, Seigneur, que ton règne vienne. Amen.
Je veux juste rappeler, dans les plateaux, au centre, se trouve du jus de raisin dans les coupelles colorées, et autour, il y a du vin. Et vous pouvez priez librement pendant le temps de la scène. Seigneur, merci pour ton sacrifice, merci pour ce temps de partage du pain et du vin. J'aimerais maintenant te remettre Philippe. Je te demande que ton Saint-Esprit inspire ces paroles. Merci de nous transmettre ce que tu veux nous dire au travers du message qu'il va apporter. Ouvre, Seigneur, notre intelligence pour que nous comprenions ce que tu veux nous dire. Accorde cette grâce aussi aux personnes ici présentes qui parlent peut-être pas bien le français, qu'elles puissent saisir l'essentiel de ton message. Nous prions, Seigneur, dans ton beau nom, Jésus. Amen.
Le chrétien, la chrétienne et l'argent. C'est souvent un sujet tabou. Nous avons pourtant prévu d'en parler à 3 reprises cet automne. La première fois il y a 15 jours, ce matin, et puis nous conclurons ce parcours le 27 octobre. Le chrétien, la chrétienne et l'argent, c'est souvent un sujet tabou. Et pourtant, Jésus en a parlé abondamment. Il a lui-même rencontré des riches et des pauvres. Il a raconté 20 de paraboles qui touchent à l'utilisation des biens matériels. Il a plus parlé d'argent que de ciel et d'enfer réunis. Certains des propos de Jésus sur ce sujet sont difficiles à comprendre, et d'autres sont faciles à comprendre, mais difficiles à mettre en œuvre. Dans un premier temps, nous avons essayé, il y a 15 jours, de faire la synthèse des enseignements de l'Ancien Testament. Et je précise, pour celles et ceux qui souhaiteraient avoir des notes, qu'elles sont volontiers disponibles en format Word ou PDF. La synthèse des enseignements de l'Ancien Testament, en 40 minutes. Le monde matériel, nous dit l'Ancien Testament, le monde matériel est une bonne chose. La richesse est une bonne chose. Mais Dieu porte un regard très attentif aux pauvres. Et il exige que les riches soient à la fois justes et généreux. Souvent, dans les psaumes, les gens pieux et fidèles à Dieu sont pauvres. L'idéal de vie, dit un verset des Proverbes, c'est de ne pas se vautrer dans le luxe, ni de s'abîmer dans la pauvreté. Protège-moi de la richesse, de peur que je ne vienne à t'oublier, et protège-moi de la pauvreté, de peur que je ne vienne à voler. L'équilibre. Et en Michée 6, verset 8, une vie menée dans la droiture, dans la bonté et dans l'humilité. Voici, ô homme, ô femme, ce que Dieu demande de toi. Comment poursuivre alors le thème du chrétien et de l'argent avec le Nouveau Testament ? Alors ce matin, j'aimerais être tout simple et m'arrêter sur des exemples. Je vais tout axer autour de 3 personnes qui ont rencontré Jésus très peu de temps avant sa mort. Et dans leur rapport à lui, il a été question d'argent. Nous parlerons donc du jeune homme riche, de Zachée et de Marie de Béthanie. Mais juste avant, quelques éléments sur l'enseignement de Jésus en général. Eh bien Jésus, et ce n'est pas étonnant, il se situe dans la ligne de l'Ancien Testament. Pour lui, la vie matérielle, la vie dans la création, la vie dans le réel, c'est quelque chose de bon, malgré les effets dévastateurs du péché. Jésus choisit de vivre dans un vrai corps d'homme. Un vrai corps d'homme. Il naît d'une femme et à sa naissance, des savants lui offrent de riches présents. En grandissant, il travaille de ses mains. Il a la réputation d'aimer le manger et le boire. Il fait du vin de grande qualité et en grande quantité pour une fête de mariage. Des femmes riches le soutiennent. Il mange chez des gens riches. Et c'est Joseph d'Arimathée, un riche, qui va lui offrir une sépulture. Du début à la fin de sa vie terrestre, une vie ancrée dans le réel. La création, c'est bon. Il n'y a rien à en rejeter. La richesse n'est donc pas un problème en soi, ni pour Abraham, ni pour Jésus. Mais on découvre avec Jésus que la richesse est des fois un problème pour certains. Luc 12, 13 à 21, un homme imaginaire a fait de belles récoltes. Et devant ces belles récoltes, il pense à construire de nouveaux bâtiments pour tout engranger son trésor. Mais la nuit même, Dieu lui redemande son âme. Tout ne peut pas être axé sur le profit. Tout ne peut pas se voir dans un horizon à court terme. Il y a un avenir. Il y a le ciel. Luc 16, 19 à 31. Un autre riche, imaginaire lui aussi, festoie jour après jour. Et ignore superbement la souffrance d'un pauvre Lazare couché devant son portail. Un homme qui est tout le contraire de Jésus, parce que Jésus a toujours manifesté une grande sollicitude pour tous les exclus de la société. C'est quoi alors le défi avec l'argent ? C'est quoi le défi avec l'argent ? C'est notre attitude envers lui. C'est ça que Jésus veut pointer. L'argent en soi, c'est une bonne chose. Le défi, c'est l'attitude qu'on développe envers l'argent. Est-ce que toute notre vie se focalise sur lui ou est-ce que nous le mettons au service de Dieu et du prochain ? Sommes-nous des propriétaires pour faire de nos biens comme bon nous semble ? Ou sommes-nous simplement des gérants, des gérantes, qui cherchent à plaire au véritable patron ? C'est tout le sens de cette formidable parabole des talents. Qu'est-ce que tu fais avec ce qui t'a été donné ? Qu'est-ce que tu fais avec ta vie ? Elle est pour toi ? Elle tourne autour de toi ? Où est l'honneur, le grand donateur ? C'est ça la question. Et puis, dans la parabole du semeur, les ronces qui peuvent étouffer la parole de Dieu, les ronces qui peuvent empêcher la parole de porter du fruit, ce sont, dit Jésus, les soucis de ce monde et l'attrait trompeur des richesses. Je trouve ça assez génial. Nous, on spiritualise vite les choses dans notre vie. Ah, la parole de Dieu, elle ne porte pas effet parce que peut-être je ne suis pas toujours aligné avec le Saint-Esprit. C'est super spi, ça mérite d'être réfléchi, mais ce n'est pas ce que Jésus dit. Jésus dit que ce qui peut atténuer l'impact de la parole dans nos vies, c'est l'attrait des richesses. C'est, on se trompe de priorité. Et c'est certainement là le problème du premier personnage qu'on va rencontrer, celui qu'on appelle le jeune homme riche, et c'est Santoche qui va nous faire la lecture de Luc 18, 18 à 30. Hélène, pardon.
Hélène, parce que Hélène a un problème avec les Z, alors Zachée.
Elle l'a dit.
Alors un notable lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?»« Pourquoi m'appelles-tu bon ?» lui répondit Jésus. « Personne n'est bon, sinon Dieu seul. » Tu connais les commandements. Ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Tout cela, lui répondit l'homme, je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. À ces mots, Jésus lui dit, il te reste encore une chose à vendre, vends tout ce que tu possèdes, distribue le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor au ciel, puis viens et suis-moi. Quand l'autre entendit cela, il fut profondément attristé, car il était très riche. En le voyant ainsi abattu, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les auditeurs s'écrièrent, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus leur répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pierre lui dit alors, « Nous avons laissé tout ce que nous avions pour te suivre. » Jésus leur dit, « Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause du royaume de Dieu sa maison, sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, il recevra beaucoup plus en retour, dès à présent et dans le monde à venir, la vie éternelle. »
Le jeune homme riche, l'homme riche. Les trois premiers évangiles rapportent exactement le même incident. C'est probablement que cet incident-là a frappé les esprits. Il serait difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu ? Et Abraham alors ? Et la richesse comme preuve que Dieu vous a béni ? Quand Jésus dit qu'il est plus difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, ben les disciples sont étonnés. Pour eux, un riche est forcément béni de Dieu. Ce jeune homme, c'est Matthieu 19, verset 20, qui précise qu'il est jeune, ce jeune homme renonce à suivre Jésus parce qu'il ne veut pas se séparer de son argent. Il est religieux, oui, mais pas fou. C'est quoi son problème ? Il imagine que la qualité de son rapport avec Dieu, que la vie éternelle, dit-il même, dépend de ce qu'il fait. Il garde scrupuleusement les 10 commandements et sans doute les autres aussi. Je n'ai ni tué, ni trompé ma femme, ni volé, ni menti au détriment d'autrui. J'ai honoré mes parents, j'ai aimé mon prochain comme moi-même depuis ma jeunesse, dit-il. Et il pensait, comme certains, que par l'aumône qu'il faisait, eh bien, il gagnerait des points supplémentaires à son salut. Et il pose la question de la vie éternelle, verset 18. Parce qu'il a l'impression que malgré tout ce qu'il fait, il n'est pas encore en règle avec Dieu. Faire. Toujours faire. Encore faire, toujours plus faire, c'est l'enfer. Et ce n'est pas ce que nous faisons, dit Jésus, qui nous fait entrer dans le royaume de Dieu. Et nous avons besoin de l'entendre. Ce n'est pas ce que nous faisons qui nous fait entrer dans le royaume de Dieu. Et apparemment, Jésus lui demande d'ailleurs de compléter la liste des choses qu'il fait pour Dieu. Tu veux faire ? Eh bien, je vais te donner à bouffer, mon gars. Viens, verset 22. Vends tout ce que tu as, tout ce que tu as, et donne le produit de cette vente aux pauvres. Et derrière ce premier mot d'ordre, il y en a un deuxième. Viens, viens, suis-moi. Et je crois que c'est ça qui est le plus important. Est-ce que Jésus demande à ce jeune homme de devenir un clochard, de dépendre désormais de la mendicité pour vivre ? Je ne crois pas que ce soit ça. Je ne trouve pas dans l'Écriture un idéal de pauvreté comme certains l'imaginent. En quittant les biens qui lui appartiennent en propre, ce riche-là pourrait bien devenir membre d'une équipe, membre d'une communauté, membre d'une grande famille. C'est pour cela que nos amis catholiques comprennent ce passage comme un appel à vivre dans les ordres. Le problème, c'est que les ordres peuvent être riches, eux aussi, et que les responsables peuvent bien gérer l'argent comme ils veulent. Alors l'appel que Jésus adresse à cet homme ne consiste pas à dire « deviens un mendiant ». C'est plutôt « renonce à gérer tes biens comme un patron ». Renonce à ton pouvoir, renonce à ton autonomie, viens plutôt avec moi, accepte mon autorité, rejoins l'équipe de mes disciples. Pierre, André, Jean, Jacques, laissez donc vos filets, venez, suivez-moi. Et toi, Matthieu, laisse un peu de côté ton bureau, ta tablette, tes papiers, tes taxes. Viens, viens, Matthieu, suis-moi. Et nous aussi, nous pouvons entendre encore ce matin l'appel ben « Viens, suis-moi », sans forcément quitter notre maison, notre famille, nos biens. Mais toujours avec l'idée que Jésus est le maître, qu'il est le patron, qu'il est l'exemple à suivre, la voie à entendre, l'autorité à accueillir, que c'est un bonheur absolu de le suivre. Et j'aimerais le dire fort ce matin. C'est un bonheur de marcher avec Jésus. C'est un privilège de marcher avec Jésus. C'est une joie de marcher avec Jésus. C'est une grâce de marcher avec Jésus. Bien au-delà de tout ce que les schémas religieux veulent nous dire, bien au-delà du faire, bien au-delà d'un code de moralité, laissez ça de côté. Marcher avec Jésus, c'est un bonheur. Bienvenue dans la compagnie du patron. C'est pour cela, et c'est cela plutôt, que le jeune homme riche ne pouvait pas accepter suivre Jésus. Alors que les disciples, en quittant tout, ont trouvé 100 fois plus. Pas matériellement, bien sûr, mais dans la communion du royaume, versets 28 à 30. Jésus a bien dit un peu plus tôt dans l'évangile de Luc, « Aucun serviteur ne peut être en même temps au service de deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. » Je retiens trois choses de cet incident. La première, c'est que l'amour de l'argent peut empêcher de suivre Jésus. Et je veux le graver dans ma tête, dans un pays riche. L'amour de l'argent peut empêcher de suivre Jésus. Je retiens aussi que les riches peuvent être sauvés parce que rien n'est impossible à Dieu. Et je retiens enfin que le Christ nous demande de le suivre sans poser de conditions et en étant prêt à tout donner pour lui. Tout. Une grande question reste en suspens. Est-ce que tout chrétien, toute chrétienne, doit tout vendre pour suivre Jésus ? Autrement dit, ce que Jésus dit au jeune homme riche, est-ce pour lui seul, comme un cas particulier, ou est-ce que c'est pour tout le monde ? Notre deuxième rencontre va nous aider à y voir plus clair Et cette fois, c'est Santoche qui va nous relire l'histoire de Zachée, Luc 19, 1 à 10.
Voilà, bonjour à tous. Zachée, je pense que c'est un des textes les plus connus. Alors, je vais vous demander d'être interactif avec moi. Comme ça, vous êtes attentif. Le salut de Zachée. Jésus entra dans la ville de Jéricho. Bravo. Et la traversa. Or, il y avait là un homme nommé Zachée. Il était chef collecteur d'impôts et riche. Pas très riche. Riche. C'est déjà pas mal. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas, à cause de la foule, car il était comme moi. Alors il courut en avant et grimpa sur un... C'était incroyable. Pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il eut un murmure d'indignation. Ils disaient « Voilà qu'il s'en va loger chez ce... » Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit « Écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. » Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Jésus lui dit alors, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ce qui était perdu. Et bravo.
Voilà donc un autre homme riche, que Jésus rencontre, ou plutôt que Jésus cherche, verset 10, le fameux Zachée. Zachée, il est très différent du jeune homme riche. Le jeune homme riche, on peut le supposer, en tous les cas, il a gagné son argent honnêtement. D'ailleurs, il affirme n'avoir jamais volé. Le jeune homme riche, il est respecté par ses compatriotes, alors que Zachée, lui, est méprisé par ses compatriotes, en particulier parce qu'il perçoit des impôts au profit de l'occupant romain, autrement dit, c'est un collabo. Et le système pour percevoir les impôts à l'époque était très différent de ce qui se passe de nos jours en Suisse. Aujourd'hui, si vous voulez travailler pour l'administration fiscale cantonale ou fédérale, bon, déjà, il faut vraiment avoir envie. Mais si vous voulez faire ça, ben, il vous faut à la base une formation, plutôt de type commercial, comptable, financière. Et puis, si vous êtes retenu, vous passez un entretien d'embauche. Toi, ce sera classe 8 ou 17. Et puis, si vous êtes engagé, ben, vous recevez un salaire. 12 ou 13 fois dans l'année. L'Empire romain, lui, y mettait aux enchères ce genre de fonction publique. Pour devenir collecteur des impôts pour la province de Judée, vous deviez commencer par verser une forte somme à Rome. Vous deviez acheter la fonction. Et ensuite, vous pouviez mettre aux enchères la taxation de la province ville par ville, poste de péage par poste de péage. Zachée a dû payer cher pour être le chef des impôts de la grande ville de Jéricho. Mais, en retour, il s'est fait payer par des sous-fifres. À chaque échelon, il fallait renchérir pour décrocher le marché des impôts. À chaque échelon, il fallait augmenter les tarifs pour entrer dans ses frais. Et au dernier échelon, qui est-ce qui casquait ? Ben n'importe qui, le citoyen, lambda. Lui, il casquait. Et Zachée était au sommet de la pyramide de Jéricho. Et quand Jésus s'invite chez lui, eh ben c'est le salut qui entre chez lui, verset 9. Et c'est un salut qui change tout. Ce descendant d'Abraham était totalement égaré. Mais avec Jésus, eh ben, il trouve le salut, il trouve Dieu, il va retrouver une communauté, celle de la vraie foi. Comment on le sait ? Ben, on le sait parce que son rapport à l'argent change, du tout au tout. Quand Zachée dit « Je donne la moitié de mes biens aux pauvres », verset 8, certains ont pensé que c'est ce qu'il faisait déjà, que c'était déjà un chic type. Mais non, ce « je donne aux pauvres », c'est la décision qu'il prend sur le champ, en ayant rencontré Jésus. C'est parce que là, devant tous ces gens qui le détestaient, il a trouvé le salut en Christ. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. C'est génial. Verset 8, la moitié de ses biens vont aux pauvres. Et pour tout ce qu'il a fait de malhonnête, il dédommage ses victimes au quadruple. La loi de Moïse exigeait seulement 20% de plus pour une escroquerie. Nombre 5, verset 7. Mais Zachée, lui, il donne 300%. Quand les gens se tournent vers Jésus-Christ, quand Jésus-Christ s'invite dans une vie, il y a parfois des choses de cet ordre-là à régler, ou à commencer à régler, parce que la vraie foi porte du fruit. Voilà donc Zachée, un homme riche qui se convertit parce que rien n'est impossible à Dieu. Et après sa conversion, il reste riche. Il garde la moitié de ses biens. Alors qu'est-ce qui change ? Ben, la générosité. Il est libéré de l'emprise de l'argent. Il donne. Il va pouvoir vérifier une célèbre parole de Jésus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Certains diraient que c'est plus facile pour un homme riche d'être généreux, que ça ne lui coûte pas grand-chose. Mais Jésus, lui, dit le contraire, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les pauvres peuvent être généreux à leur manière, comme la pauvre veuve qui a mis 2 sous dans le tronc du temple. Mais les pauvres peuvent aussi vivre sans jamais penser aux autres. Tout est dans l'attitude. Et ce qui est visé, riche ou pauvre, et nous serons toujours les riches de quelqu'un et les pauvres de quelqu'un, ce qui est visé pour chacun de nous, c'est la générosité. C'est la générosité. J'en viens maintenant à mon dernier personnage, et c'est une femme. Xavier, tu veux lire avec nous Matthieu 14, 3 à 11 ?
Jésus est à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Il est en train de manger. Une femme arrive avec un très beau vase plein d'un parfum très cher, fait avec du nard pur. Elle casse le vase et elle verse le parfum sur la tête de Jésus. Alors quelques-uns des invités ne sont pas contents. Pas contents du tout et ils se disent entre eux, « Elle a gaspillé ce parfum, mais pourquoi ? On pouvait le vendre plus de 300 pièces d'argent et ensuite donner l'argent aux pauvres. » Ils critiquent la femme. Mais Jésus leur dit, « Laissez-la tranquille. Pourquoi est-ce que vous l'ennuyez ? Ce qu'elle a accompli pour moi est une bonne action. Vous aurez toujours des pauvres avec vous et vous pourrez leur faire du bien chaque fois que vous le voudrez. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Cette femme a fait ce qu'elle a pu. Elle a mis du parfum sur mon corps. D'avance, elle l'a préparé pour la tombe. Je vous le dis, c'est la vérité. Partout où vous annoncerez la bonne nouvelle dans le monde entier, on racontera ce que cette femme vient de faire et on se souviendra d'elle. Judas Iscariote, l'un des 12 apôtres, va voir les chefs des prêtres. Il veut leur livrer Jésus. Les chefs sont très contents d'entendre cela et ils promettent de donner de l'argent à Judas. Celui-ci cherche une bonne action pour leur livrer Jésus.
Alors, je ne suis pas encore complètement gaga, je sais que j'ai déjà abordé ce texte il y a quelques mois. Très rapidement,
Je trouve d'abord qu'il est légitime de l'aborder parce que c'est la seule fois où Jésus dit à propos d'un épisode que partout dans le monde entier, chaque fois que la bonne nouvelle sera annoncée, ce qui est donc le cas à Mérin ce matin, on devrait raconter l'histoire de cette femme. Pas rien, hein ? Alors, ça va faire 2 fois en 8 mois, excusez-moi, on va se laisser quelques mois jusqu'à la prochaine fois. Mais je trouve intéressant cette femme qui est valorisée par Jésus. On est donc en train d'assister à une fête. La femme, c'est les textes parallèles qui nous le montrent, c'est Marie, la sœur de Marthe et de Lazare. C'est donc des amis de Jésus. Nous sommes dans la maison de Simon le lépreux, selon Matthieu et Marc. Manifestement, Simon n'était plus lépreux. Nous sommes à 6 jours de la croix. Tout ce qui se passe pendant cette semaine-là prend une couleur, une intensité particulière. Et par rapport à notre thème, qu'est-ce qu'on apprend encore ? Ben déjà, une confirmation, c'est que Jésus aime les fêtes. Jésus, ce n'est pas un rabat-joie. Jésus, ce n'est pas un ermite du désert. Jésus, ce n'est pas un ascète. Ce n'est pas quelqu'un de tout sec. Pour lui, la vie humaine, dans toutes ses dimensions matérielles, c'est important. On peut se réjouir dans la vie. Autrement dit, nos biens matériels ne sont pas tous destinés à être employés à des fins strictement utiles et nécessaires. Ils peuvent aussi être employés à des fins futiles, festifs. Pourquoi la fête ? Ben, Jésus vient de ressusciter Lazare, Jean 11. C'est donc une fête pour remercier Jésus, c'est une fête pour honorer Jésus, c'est une fête pour se réjouir dans la présence de celui qui est la résurrection et la vie. Et si on avait encore un doute, eh ben il vient de le prouver en ressuscitant Lazare. Et c'est ce qui explique aussi l'extravagance du geste de Marie. Un demi-litre de parfum, d'un parfum très cher, prend soin de mentionner le texte. Normalement, on lave les pieds avec de l'eau. Mais pour les pieds de Jésus, Marie décide de mettre le prix. Ce sera un flacon de parfum de nard pur, 300 deniers. Un denier, c'est le salaire journalier d'un ouvrier bien payé, bien payé. 300 deniers. Autrement dit, grosso modo, une année de salaire pour un ouvrier. Je vous laisse faire le calcul si vous voulez. Hein. Toujours est-il, plusieurs milliers de francs pour laver les pieds de Jésus à 6 jours de sa mort. Est-ce bien raisonnable ? Ben non, dit Judas. Non, disent les disciples. Non. Si vraiment on ne veut pas garder ce flacon de parfum, alors qu'on le vende. Et puis ben, les pauvres en bénéficieront d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est d'une logique imparable. Imparable. Mais la logique méprise la valeur du geste. C'est le geste d'une femme qui a retrouvé son frère vivant. C'est le geste d'une femme qui est là avec son sauveur, son Seigneur. C'est un geste qui honore le Fils de Dieu. C'est un geste d'adoration. Et encore, ce que personne n'arrivait à imaginer sur le moment, c'est un geste prophétique. Peut-être le geste prophétique le plus fort de tout le Nouveau Testament. Un geste qui parle de la mort et de l'enterrement de Jésus et de sa résurrection. Le cœur du cœur du cœur de l'histoire et de la foi chrétienne. Jésus, mort et ressuscité. Et ce geste extravagant est prophétique. Et là, je vois 2 choses. D'abord, une leçon intéressante, c'est que pour les gens qui sont sans scrupules, le souci des pauvres peut être une certaine source de profit. Ce n'est qu'un prétexte pour Judas. Plus on fait du chiffre, moins on verra les malversations. C'est malheureux, mes amis, hein, mais les pauvres ça peut être tout un business. Notre raison, notre réponse ne sera pas, j'espère, de fermer notre cœur, mais de rester vigilant. Et puis la leçon essentielle avant de conclure, c'est que dans notre rapport à Christ, dans notre relation à Dieu, les gestes extravagants sont parfois légitimes. S'ils sont extravagants, c'est qu'ils n'appartiennent pas à la vie de tous les jours. Même si Marie était riche, personne ne se baignait chez elle avec un parfum de ce prix-là. Elle ne vit pas dans un luxe choquant, obscène. Mais là, par amour, elle se permet un geste spécial. Comme nous. Comme nous. Pour un anniversaire important. Pour un projet de construction, de rénovation d'église. Pour la mission, pour l'évangélisation, pour la formation de futurs pasteurs. Un geste extravagant, spécial. Je conclus. Ce matin, on a examiné l'attitude rapidement de trois personnes qui avaient du bien, comme on dit. Le premier, en fin de compte, était esclave de son argent. Il ne voulait pas s'en séparer. L'argent l'a empêché de suivre Jésus. Et ça me met la puce à l'oreille pour veiller sur ma propre vie. Le deuxième, Zachée, s'est montré généreux. Et sa générosité, c'était le signe de sa conversion. La conversion, ça change les choses. Notre vie ne tourne plus autour de nous, elle tourne autour de Dieu et des autres. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour revenir à une conduite droite et honnête et généreuse. Et la troisième, Marie. Elle, elle est allée au-delà du raisonnable, par amour. La Bible nous demande de ne pas nous plonger dans le besoin pour soulager d'autres personnes. On le voit dans les conseils que Paul donne aux Corinthiens. Mais la Bible nous incite à être généreux. Une idée moderne consiste à dire que nous devons donner généreusement à Dieu et à ses supposés représentants pour que Dieu nous en donne beaucoup plus en retour. Ben ça, c'est pas donné. Ça, c'est marchandé. Ça, c'est calculé. C'est à 10 000 kilomètres de l'exemple que Zachée et Marie nous laissent, et c'est encore plus loin de l'exemple de Jésus-Christ. Je me pose une question à la fin de cette réflexion. Pourquoi est-ce que la fête de ma vie avec Dieu consisterait toujours à recevoir des cadeaux? Est-ce que la fête de ma relation avec Dieu pourrait aussi consister à faire des cadeaux? Ça, c'est l'affaire d'une vie, comme l'a dit Jésus, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen.
Merci beaucoup pour le message, Philippe. Je vous propose un petit moment de recueillement pour que chacun puisse méditer sur ce que nous avons entendu et réfléchir à comment y mettre en pratique pour soi-même dans nos vies. Et je terminerai par la prière. Seigneur, merci pour ce que nous avons entendu. Merci pour Philippe. Merci de faire germer dans nos cœurs ce que tu as envie de nous partager, ce que tu as envie que nous vivions avec toi. Et veuille nous faire réfléchir à ce que nous avons entendu toute la semaine et après, pour que notre vie soit à ta gloire. Amen. Nous allons chanter un chant pendant que nous récoltons l'offrande. Il n'y a aucune obligation à donner, donc les dons sont libres. Nous allons passer dans les rangs.
Notre Père,
notre Père,
qui es aux cieux,
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne
vienne,
vienne,
que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel,
comme au ciel.
Donne-nous
notre pain
aujourd'hui,
aujourd'hui et demain,
pardonne-nous.
Nos offenses,
comme nous les pardonnons,
comme nous les pardonnons
à tous ceux qui nous ont offensés.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous les pardonnons,
comme nous les pardonnons
à tous ceux qui nous ont offensés.
Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire.
Le règne, la puissance,
le règne, la puissance et la gloire,
le règne, la puissance et la gloire,
le règne, la puissance et la gloire.
Seigneur, merci pour tous tes bienfaits à notre égard et pour la liberté que nous avons en toi. Veuille recevoir cet argent récolté et le faire fructifier pour l'avancement de ton royaume. Merci de bénir les personnes qui doivent le gérer et merci de bénir ceux qui le reçoivent. Amen. Passons aux annonces. Anne-Marie, tu veux commencer ?
Alors, c'est reparti pour l'action Paquet de Noël. Vous l'aurez déjà remarqué, j'ai déjà sorti le panneau avec les petits tickets à prendre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette action, elle dure depuis plus de 20 ans. Elle est soutenue conjointement par 4 œuvres d'entraide qui organisent la collecte, le transport et la distribution des paquets de Noël à des enfants et des adultes qui vivent dans une grande précarité en Europe de l'Est. Ces paquets sont confectionnés dans toute la Suisse et distribués avant Noël dans 7 pays de l'Est. Je ne sais pas si on peut éteindre, qu'on voit un peu mieux, je ne sais pas si vous voyez. L'année passée, plus de 107 000 paquets ont été distribués. Ça équivaut à 35 semi-remorques. Et c'est vraiment encourageant et réjouissant de tout ce qui est fait. Ces quatre missionnaires travaillent sur place toute l'année avec des partenaires locaux en distribuant de la nourriture, des sacs de pommes de terre, des vêtements, du charbon aux plus nécessiteux. Donc l'action Paquet Noël s'intègre dans des projets d'aide qui fonctionnent toute l'année. Alors ces paquets sont distribués à des gens qui vivent vraiment dans une grande précarité ou dans des situations très difficiles, des familles nombreuses, des handicapés, des personnes âgées, des mères célibataires, dans des foyers pour handicapés. Et les destinataires sont vraiment très touchés de savoir qu'on pense à eux, qu'on confectionne ces paquets avec beaucoup d'affection, en mettant plein de bonnes choses dedans. Et pour certains, c'est le premier paquet qu'ils reçoivent de toute leur vie. Alors, en pratique, vous pouvez commencer à apporter de quoi remplir ces paquets à partir de dimanche prochain. Ce que vous apportez est à déposer dans la salle des Toons, qui est la première salle à l'entrée en bas, sur des tables. Sur le panneau, j'ai mis des tickets qui correspondent à ce qu'on a besoin pour remplir ces paquets. Et on vous demande de vraiment apporter strictement que ce qui est marqué sur ces tickets. On peut rien faire de ce que vous apportez. En plus, la distribution, il faut qu'elle soit équitable pour que chacun reçoive la même chose. Donc, on a des listes précises de ce qu'on met dans les paquets pour adultes et pour enfants. Et pour passer la douane, c'est aussi important pour qu'ils n'aient pas des soucis à la douane. On peut mettre en péril toute l'action si le contenu des paquets ne correspond pas à ce qui est annoncé. Et attention aussi à la date limite de consommation des denrées alimentaires qui devrait aller normalement jusqu'en juin 2020. Et donc, il y a un panier de laine à la sortie. Si des personnes ont envie de tricoter des écharpes en particulier, donc on a besoin d'écharpes, bonnets, gants et chaussettes, mais je pense que le plus facile, c'est de tricoter des écharpes. Dernier appel, c'est un cadeau. On met que des choses qui sont neuves, des jouets neufs ou qui sont comme neufs. Pas des chaussettes usagées, pas des jouets qui sont abîmés. Il y a aussi des papillons. Pour ceux qui veulent faire un paquet complet, il y a la liste exacte des choses à mettre dedans, dans ces papillons. Avec les dates aussi pour la récolte, pour la confection des paquets, il y a toutes les données dessus. Il y a aussi une tirelire en carton où vous pouvez mettre de l'argent. En fin de récolte, s'il manque des choses, on utilise cet argent pour compléter les paquets. Ou alors le reste, on le donne pour le transport. Pour financer le transport. Et si vous avez besoin d'autres enseignements, vous pouvez les adresser à Elisabeth Bécher ou à moi-même. Merci.
Alors, les autres annonces. Alors, pour les cafés du dimanche après le culte, André Dufour recherche toujours des bonnes volontés qui seraient prêtes à donner un moment pour préparer ces cafés. Donc, si vous avez un peu de disponibilité et envie de rendre ce service, adressez-vous à André, qui sera toute contente de pouvoir vous mettre sur la liste et vous expliquer comment on fait. Quoi, les personnes? Oui, André. Elle est où, André? Voilà, André Dufour, pour ceux qui ne la connaissent pas. Alors, après le culte, donc, c'est prévu une séance d'information et d'échange sur la vie de l'EEM. Pour les personnes qui sont nouvelles ou celles qui viennent depuis plus longtemps, mais qui aimeraient connaître le fonctionnement de notre Église, alors c'est particulièrement destiné aux nouvelles personnes, mais c'est ouvert à toutes les personnes qui ont envie d'en savoir un peu plus. Donc, ça se passera à 12h15 ici, suivi du repas canadien vers 12h30 et une deuxième partie vers 14h15 et qui se terminera à 15h. Si vous n'aviez pas prévu, que vous ne saviez pas ou que vous avez oublié, vous pouvez quand même rester. Les repas canadiens, on partage ce qu'il y a et en général, il y a assez pour tout le monde. Alors, pas de problème, vous pouvez rester. Juste pour avoir une petite idée, est-ce que les personnes qui pensent rester, est-ce que vous pourriez lever la main, qu'on sache qui... Waouh, magnifique! C'est magnifique. Alors, on demandera aux personnes qui restent pas ou qui restent que pour le repas de sortir assez rapidement de la salle pour qu'à midi moins quart, on puisse revenir ici et commencer la séance d'information. Voilà. Alors, le programme cette semaine, mercredi, méditation, parole et silence au CEPOM. Donc, mais c'est ouvert à tout le monde. Le mercredi soir, le groupe de jeunes dans la salle du bas, dès 19h. Jeudi soir, rencontre du conseil. Et vendredi, le caté pour les jeunes de 11 à 15 ans, donc de 19h à 21h. Si vous avez encore des jeunes, des ados qui aimeraient venir au caté et qui n'ont pas... qui n'étaient pas là au début de l'année, il n'y a pas de problème. Même en cours d'année, ils peuvent rejoindre le groupe, vous adresser à Philippe, et puis ils sont les bienvenus. Donc, n'hésitez pas si vous connaissez des ados. Mardi 15 octobre, le fil d'argent. Alors, ce qui se passera ici, invitation pour un voyage dans l'espace. Pas mal comme titre, hein? Donc, suivi de la traditionnelle tasse de thé avec les toujours succulentes pâtisseries. Donc, bienvenue, même si vous êtes un petit peu plus jeune que l'âge du fil d'argent, vous êtes les bienvenus. Mercredi 16 octobre, Dieu, mode d'emploi. Sylvain, tu veux donner deux mots d'explication?
Voilà, bon, on est dans une société multiculturelle, multireligieuse. Il ne faut pas s'en plaindre, c'est peut-être une chance, et particulièrement à Mérin. Et on a un groupe de travail qui réfléchit au rapport avec les autres religions ici à Mérin, qui est issu de notre collaboration œcuménique. Et on organise le 16 octobre une rencontre ici à Mérin, qui sera introduite par Philippe Gonzalez, mais qui va surtout être un échange sur cette question de la place des religions dans la société. Voilà.
Le samedi 2 novembre, donc One, l'événement Grand Rassemblement Chrétien de Suisse Romande, avec une animation pour tous les âges. Il y a encore des flyers à disposition sur le présentoir dans le foyer. Alors, inscrivez-vous. Alors, envie de chanter. Je pense que là, je vais laisser David Porter expliquer.
Alors, l'idée, c'est de commencer une nouvelle chorale. C'est un projet donc de moi-même, soutenu quand même par le conseil, mais l'idée que ce serait de commencer dans un lieu neutre, c'est-à-dire la chapelle, une occasion pour inciter, encourager les gens qui aiment bien le chant de se rejoindre et de découvrir un peu comment mieux chanter, comment contrôler sa respiration, etc. L'idée, c'est aussi de rejoindre Mérin et ailleurs. Les membres de l'Église sont aussi les bienvenus, mais peut-être vous avez déjà vu les affiches un peu dans plusieurs endroits à Mérin, grâce à Barbara, entre autres. Donc, toutes les informations sont sur un petit flyer qui sont à l'extérieur. Et puis, n'hésitez pas à en prendre si peut-être vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé. Donc, ce n'est pas que pour des chrétiens. L'idée, c'est justement que ce soit neutre et ouvert à tous. Et ne vous inquiétez pas pour les infos exactes qui sont sur les flyers. C'est pour éviter de confondre des personnes en parlant de deux endroits en même temps. Parce que, bien sûr, jusqu'à ce que la chapelle soit prête, ça aura lieu ici.
Non, il y a une supplémentaire qui s'est rajoutée ce matin. C'est pour ce jeudi, sauf erreur. Moi, je l'ai trouvé dans ma boîte. Ce matin, c'est organisé au Bouchet. Il y a une conférence de Valérie, je ne sais plus son nom de famille, voilà, Valérie Duval-Poujol, à l'occasion de la sortie de la nouvelle version de la Bible en français courant. Et Valérie Poujol, c'est une personne très intéressante sur l'interprétation de la Bible. Je sais qu'elle a donné des conférences super intéressantes à la Fraternelle Agnon assez récemment. Donc je pense que ça vaut la peine d'aller l'écouter si vous pouvez, jeudi à 19h au Boucher.
Et je vais encore donner la parole à Jérémy et Noémie qui voulaient nous dire deux mots.
Merci. Vive les mariés.
Merci beaucoup. Justement, on voulait vous remercier, on voulait remercier à tous qui avaient été là, étaient présents pour tous vos petits mots, pour nous avoir aidés pendant cette journée qui a été magnifique. Et voilà, on voulait encore vous remercier du fond du cœur.
Merci.
Voilà. Alors, je vous rappelle juste qu'après, je vous demande de sortir assez rapidement pour qu'à midi moins quart, on puisse commencer ici. Encore Philippe.
Alors, avant que nous sortions simplement ce beau texte pour invoquer la bénédiction de Dieu sur chacun d'entre nous, au psaume 86, verset 12, psaume 84, verset 12, excusez-moi. « Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil. » Il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Éternel, Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme, la femme qui met sa confiance en toi. Je vous souhaite un très bon dimanche et une belle semaine sous sa garde. Amen.